chronique. Une émission de la rédaction de Storia Voce. En partenariat avec Codex. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à la revue Codex. Codex qui est notre partenaire et Codex qui, ce trimestre, a décidé de se pencher sur les cathédrales gothiques. Alors bien évidemment, il y a une actualité qui est l'incendie de Notre-Dame. Nous vous avions promis, notamment sur les réseaux sociaux, de faire une émission sur les cathédrales. Alors avec Priscille de Lassus, de la revue Codex, nous avons souhaité prendre le temps. Je savais que Codex allait faire un numéro sur les cathédrales et il se trouve qu'entre-temps, il y a eu cet incendie. Mais la revue Codex a souhaité prendre son temps afin de faire un dossier complet, non pas seulement sur Notre-Dame, mais également sur les cathédrales de manière générale. Surtout, et c'est, je pense, la grande qualité de ce dossier, donner du sens, pourquoi les cathédrales et pas seulement comment. On a beaucoup parlé du comment on construit une cathédrale, comment s'est faite cette fameuse charpente de plusieurs siècles qui a brûlé, comment est apparue la flèche de Viollet-le-Duc, mais on ne donne pas le pourquoi. Pourquoi ces cathédrales? Et c'est à cette question que répond donc Codex, 2000 ans d'aventure chrétienne. Priscille, bonjour.
Bonjour Christophe.
Merci donc de revenir au micro de Storia Voce pour présenter ce numéro, ce numéro non pas spécial, mais ce numéro tout simplement de Codex sur les cathédrales. Qu'est-ce qu'une cathédrale, Priscille?
Alors une cathédrale, c'est une église d'abord. D'ailleurs, le mot cathédrale apparaît en tant que tel assez tardivement. On parle d'abord d'église cathédrale, donc c'est un adjectif, et c'est l'église de l'évêque. Donc une cathédrale, eh bien finalement, ça existe depuis le début du christianisme, ou du moins depuis que le christianisme a un statut officiel dans l'Empire romain. Donc à partir du 4e siècle, on trouve les premières cathédrales, et le mot cathédrale vient du mot cathèdre, la cathèdre étant le siège de l'évêque, celui sur lequel il enseigne, il exerce quelque part son magistère d'enseignement. Et ce siège de l'évêque est extrêmement important parce que pour l'Église, c'est le lieu de l'autorité, mais c'est aussi le lieu du rassemblement. C'est l'Église de l'évêque, mais aussi de tout son peuple rassemblé, du peuple du diocèse, c'est-à-dire du territoire qui est attribué à un évêque, et donc l'église d'une communauté, la représentation de l'assemblée sur un territoire précis.
Alors nous allons peut-être diviser cette émission en deux parties, une première partie sur Notre-Dame, une deuxième partie plus sur ces cathédrales. Et vous montrez bien dans le dossier que au fond, un tel incendie à l'époque médiévale, puisque votre revue est une revue d'histoire, un tel incendie aurait été considéré comme un signe.
Oui, alors nous avons effectivement eu un entretien passionnant avec l'historien de l'art Arnaud Timbert, qui a beaucoup étudié les récits d'incendie au Moyen-Âge, et il montre bien comment finalement dans beaucoup d'histoires de cathédrales, on s'en rend compte quand on va les visiter, eh bien l'incendie revient de façon récurrente, hein, c'est vraiment un événement assez habituel dans la longue histoire des cathédrales, hein, qui s'étend sur plusieurs siècles. Très régulièrement, on se rend compte qu'on a lancé un nouveau chantier suite à une catastrophe. Les flammes ont dévasté l'édifice. Eh bien, justement, les historiens de l'art pointent peut-être parfois des incendies qui n'auraient pas été aussi dévastateurs qu'on a bien voulu le dire. Peut-être que ça arrangeait bien les bâtisseurs d'avoir un prétexte pour faire un édifice plus beau, un édifice plus grand. Et puis, surtout au Moyen-Âge, on est vraiment dans ce monde de foi. Et donc, tout événement est interprété à la lumière de la spiritualité. Et donc, un incendie peut vouloir dire que le Seigneur ou la Vierge demande qu'on rebâtisse un édifice plus beau en leur honneur.
Donc une telle catastrophe constitue comme une sorte, non pas forcément de châtiment, mais en tous les cas de message du ciel.
Alors ça peut être interprété parfois comme un châtiment, mais aussi ça peut être une occasion d'aller de l'avant.
Alors il y a un autre texte, une autre interview qui est très importante, celle de Dany Cendron, qui montre l'importance, au fond, la prééminence de l'évêque de Paris. Alors qu'on sait que, en fait, l'évêque est au fond seul en son royaume, en son diocèse. Il y a énormément de diocèses en France. Il y a aussi la capitale des Gaules. Lyon a joué un rôle très important dans l'histoire du christianisme. Comment qualifier cette prééminence de l'évêque de Paris?
Alors, elle peut se comprendre, en fait, par rapport à plusieurs personnages. D'abord, peut-être que l'évêque est à la tête de son diocèse, mais il y a d'autres grands personnages religieux sur un diocèse, et je pense notamment aux grandes abbayes et aux abbés, et à Paris, qui, à l'époque, le diocèse de Paris est bien plus large que ce que nous connaissons aujourd'hui de Paris. Il y a l'abbaye de Saint-Denis, qui est quand même une abbaye royale extrêmement prestigieuse, la nécropole des rois. Il y a aussi l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui est très puissante, et bon, voilà, un certain nombre d'établissements monastiques qui exercent un vrai rayonnement culturel, économique, qui peuvent aussi parfois jouer un rôle politique. Donc il y a d'autres personnages religieux très importants auprès desquels le roi peut se rendre pour demander un conseil ou autre. Voilà, donc le chantier de Notre-Dame de Paris doit aussi se comprendre par rapport aux autres chantiers qui se développent à la même époque, ou même un peu au préalable, dans ces abbayes d'Île-de-France. Et puis il y a aussi d'autres évêques. Et je pense par exemple à l'archevêque de Sens. On ignore souvent que le diocèse de Paris, à l'époque, dépendait finalement d'un siège d'archevêque qui se trouvait à Sens, donc en Bourgogne aujourd'hui, qui avait une sorte de préséance parce qu'il était de fondation plus antique. Et donc, quelque part, l'évêque de Paris dépendait de son aîné de Sens. Voilà, à l'époque, Paris aussi, c'était une ville qui va connaître un développement extraordinaire, mais qui partait finalement de pas grand-chose, et il y avait d'autres villes qui avaient plus de rayonnement. Donc, construire une grande cathédrale dans Paris, magnifique, c'était aussi une façon de consacrer l'essor extraordinaire de cette ville, qui vers 1400 va devenir la ville la plus peuplée d'Europe.
Donc, comme c'est la plus peuplée d'Europe, ça devient un peu, non pas comme le centre du monde, mais en tous les cas comme un des...
De la chrétienté, au moins.
Une des villes les plus importantes de la chrétienté.
Oui, exactement. Il y a aussi, il y a un rôle, l'affirmation de la dynastie capétienne qui se fait dans ces mêmes années. Il y a exactement au même moment la création du Louvre, quand même, de ce château forteresse qui n'est pas la résidence permanente des rois, mais qui implante vraiment ce pouvoir capétien aussi à Paris. Il y a énormément d'autres événements, le développement, on peut y penser à l'université, donc un rayonnement culturel de la ville, et Paris s'affirme vraiment comme un phare dans toute la chrétienté en Occident.
Oui. Alors, vous parlez d'affirmation, en fait, de cette centralité parisienne. Est-ce qu'elle va de pair avec le pouvoir royal? On a beaucoup insisté dans l'histoire de Notre-Dame, dans les journaux, sur l'intimité qu'il y existait entre le pouvoir, mais surtout au temps contemporain. On a peu parlé, au fond, de l'histoire de la monarchie, l'histoire des Capétiens et du lien entre le monde capétien et Notre-Dame.
Alors, les rois capétiens ont un lien effectivement particulier avec Notre-Dame, parce que c'est juste à côté de leur palais. Malgré tout, ce ne sont pas eux les premiers décideurs de ce chantier, c'est vraiment l'évêque. On peut parler de la grande figure de Maurice de Sully, qui est décideur, qui finance aussi la majorité du chantier. Les rois apportent leur contribution, mais finalement, ça reste assez modeste par rapport au coût faramineux d'un tel chantier. Et donc, ils ont un attachement particulier pour Notre-Dame de Paris. On dit que, notamment, Saint-Louis aurait financé les grandes roses fameuses qui apportent tant de couleurs à l'édifice. Mais ils ne sont pas leaders sur ce monument-là. Ils le seront beaucoup plus sur d'autres monuments. On peut penser à l'abbaye de Saint-Denis, on peut penser à la Sainte-Chapelle qui dépend intégralement du pouvoir royal. Notre-Dame, c'est aussi un lieu où le roi, quelque part, doit aussi se faire petit, infidèle comme les autres finalement, et le véritable chef, cela reste l'évêque, pourtant, au Moyen-Âge. Hein.
Pourtant, c'est sa paroisse, la paroisse du roi, c'est Notre-Dame ?
Oui, alors après il y a d'autres cathédrales hein, qui ont un rôle très important pour les rois de France.
On pense évidemment à Reims.
Et dans tout ce cérémonial du sacre ou des enterrements, il y a un passage par Notre-Dame. Mais voilà, c'est l'évêque qui reste finalement le personnage décideur et principal en sa cathédrale.
Est-ce que l'État s'est servi de Notre-Dame ?
Oui, tout à fait. Ça a pu commencer sous l'Ancien Régime avec parfois des fêtes incroyables, très fastueuses. Je pense eh bien à la naissance d'un dauphin qui donnait lieu à des actions de grâce fabuleuses, même à des décors. Hein. Tout au fond, on trouve cette fameuse Pietà qui est liée au vœu de Louis XIII, si jamais il avait un fils, un héritier, pour porter la couronne. Et ce décor marque fortement encore la cathédrale. Il faut bien penser que ces lieux-là sont des lieux vivants et donc leur visage évoluait au fur et à mesure des cérémonies, des temps liturgiques, mais aussi de la vie de l'État, de la vie du royaume, et puis plus tard eh bien de la vie de la République aussi, parce que la République va vraiment s'inscrire dans cette continuité pour y célébrer également de grands événements. On a beaucoup parlé des Te Deum après les victoires, à la fin de la Première Guerre mondiale, des enterrements de grandes personnalités. Donc également Napoléon y a fait son sacre. Donc c'est un lieu prestigieux et qui permet pour un chef d'État de s'inscrire dans une histoire longue, une forme de continuité. Et je pense que c'est pas anodin que le président Macron aujourd'hui s'intéresse de près à Notre-Dame, parce que lui aussi voudrait s'inscrire dans cette longue histoire des siècles. Lui qui, le jour de son élection, avait été au Louvre, par exemple, lui qui a reçu Poutine à Versailles, n'est pas indifférent au prestige symbolique d'un édifice comme Notre-Dame.
Alors, vous mentionnez bien évidemment dans le dossier hein, que Notre-Dame, ce n'est pas la première fois qu'une cathédrale brûle. Mmh. Il y a eu, hein, et d'ailleurs, il y a eu un livre qui est sorti il y a moins d'un an sur le sujet, sur Reims, Reims et puis l'incendie de 1914.
Oui, alors c'est un événement absolument passionnant qui arrive au tout début de la Première Guerre mondiale. On est au mois de septembre, donc la guerre vient d'être déclarée au début du mois d'août. Et les bombardements allemands finissent par déclencher un incendie sur les échafaudages déjà de la cathédrale de Reims qui était en travaux. C'était des échafaudages en bois. Et là, l'incendie se propage de façon très rapide, d'autant plus que l'intérieur de la cathédrale était rempli de bottes de foin pour pouvoir coucher des blessés, y compris des blessés allemands d'ailleurs. Et c'est un énorme brasier que les contemporains ont vécu comme une véritable apocalypse. Et les pompiers n'ont pas pu faire grand-chose parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens. Les tuyaux étaient aussi percés, on était toujours en période de bombardement et finalement en quelques heures on a vu exactement ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris. Le toit a disparu, la charpente a disparu, les gargouilles crachaient du plomb dans une espèce de vision d'horreur et ça a été un événement extrêmement marquant du début de la guerre qui n'a pas été ignoré des services de propagande. Pour beaucoup, cela a été un symbole de la barbarie allemande, de la barbarie germanique, qui a été utilisée dans de nombreux dessins, cartes postales, pour un peu exciter l'ardeur des combattants, puis aussi la passion à l'arrière.
Alors, le titre du livre, hein, c'est « La cathédrale incendiée, Reims, septembre 1914 » de Thomas Gatkens, je ne sais pas si je prononce correctement, et c'est paru chez Gallimard en 2018. Partons dans l'histoire, Priscille, si vous le voulez bien. Que s'est-il passé au XIIe siècle pour que l'Europe se lance dans de tels chantiers? Parce que là, nous sortons donc de Notre-Dame, et c'est la grande qualité de votre dossier, vous avez une vue à 360 degrés, et vous partez sur les routes européennes afin de mieux comprendre ce phénomène architectural.
Oui, c'est vraiment un phénomène, parce que finalement, en peu d'années, en un siècle et demi, on a vu de nombreuses villes se lancer dans des chantiers absolument gigantesques. Des spécialistes ont dit qu'en un siècle, l'Europe avait charrié plus de pierres que les Égyptiens au cours de toutes leurs grandes pyramides, palais, etc. Et alors, en fait, il faut bien se remettre dans le contexte du Moyen-Âge après l'an 1000. Voilà, c'est une période faste. Là, on est sur un temps un peu long, hein. Je commence assez tôt exprès après l'an 1000. Au niveau économique, c'est une période de prospérité, plutôt de paix relative. Une période assez dynamique aussi au niveau religieux avec la réforme grégorienne, voilà, qui permet au pape d'asseoir son pouvoir, aux paroisses de se développer, qui affirme aussi le rôle de l'évêque, et ça c'est important pour les cathédrales. Au niveau de l'agriculture, il y a des innovations et du coup une augmentation de la production. Et une forme de prospérité. On est vraiment dans une période d'expansion.
Quand le bâtiment va, tout va, dit-on, sur le plan économique, et ça vaut en fait pour le Moyen-Âge.
Mais exactement, ça vaut parce que aussi la population augmente de façon très très conséquente. Les villes commencent à se développer et voilà, on est dans une période de grande construction, donc qui commence à peu près après l'an 1000, et la période dite romane correspond au début de ce grand élan. Et dans ce contexte de chantier, on va commencer à élaborer encore de nouvelles formes. Là, nous sommes au XIIe siècle, de façon vers 1135 à peu près. On estime que sur le chantier de l'abbaye de Saint-Denis, donc en région parisienne, et puis aussi sur le chantier de la cathédrale de Sens, commence à advenir cette nouvelle architecture gothique qui révolutionne une façon de concevoir l'espace.
Votre dossier s'intitule « Cathédrale gothique entre ciel et terre ». C'est un élan de foi. Je me souviens au moment de l'incendie de Notre-Dame, il y a eu un texte remarquable de Chantal Delsol expliquant que bon, les pyramides que vous citiez avaient été construites par des esclaves, les palais russes par des pauvres serfs, tandis que les cathédrales, elles ont été bâties par des hommes libres.
Oui, des hommes qui étaient libres et rémunérés. C'était de vrais professionnels rétribués à la hauteur de leur qualification, avec des savoir-faire extrêmement pointus. J'ai eu l'occasion d'aller dans un atelier de restaurateur à Strasbourg. Il disait, en fait, construire une cathédrale, c'est comme aujourd'hui construire la fusée Ariane. On fait appel vraiment aux meilleurs. Et c'est vrai que ces meilleurs sont bien traités. L'architecte est bien rétribué. C'est un homme qui devient de plus en plus important. On s'en rend bien compte dans les textes, dans la façon dont il est valorisé. Parfois presque autant que le commanditaire. Et puis tous ces tailleurs de pierre qui constituent vraiment le haut du panier sur le chantier réalisent un travail magnifique. On peut aussi parler des maîtres verriers, des gens qui travaillent le métal. Il y a énormément de monde sur ces chantiers qui ne sont pas exploités mais travaillent librement et puis de façon tout à fait rémunérée et rétribuée.
Il y a une partie de votre dossier, vous reproduisez, puisque les dossiers de codex sont largement iconographiés et très bien iconographiés, vous reproduisez en fait des sources écrites qui sont rares sur la façon dont on, j'allais dire, travaillait, et ce sont des documents quasiment inédits, enfin connus bien évidemment par les spécialistes, mais vous montrez en fait au fond ce qu'on appellerait un carnet de travail d'un architecte.
Alors oui, nous présentons le carnet de Villard de Honnecourt, qui est peut-être pas un architecte, on ne sait pas qui il est exactement, en tout cas c'est quelqu'un qui connaît très bien la technique et qui voyage beaucoup et qui a réalisé de nombreux croquis au fil de ses pérégrinations. Alors parfois ce sont des croquis d'architecture, on reconnaît par exemple les tours de la cathédrale de Laon avec les fameux bœufs cornus qui se trouvent au sommet. Il a aussi réalisé des croquis à Reims et voilà, dans de nombreux endroits. Il peut donner une forme de vitrail, il peut représenter finalement des personnages qui vont inspirer des sculpteurs. Il peut également faire un schéma d'engins qui servent sur les chantiers de cathédrales. Et voilà, et tous ces croquis ont été conservés, ils datent du XIIIe siècle. Ils se trouvent actuellement à la Bibliothèque nationale de France, dans le département des manuscrits. Et c'est extrêmement précieux parce que les sources concernant les chantiers, en général, elles datent plutôt de la fin du Moyen-Âge que de ce XIIIe siècle. On en a relativement peu et du coup, nous sommes heureux de pouvoir en montrer les images, surtout qu'il a un très bon coup de crayon.
Comment décoder l'architecture gothique, Priscille de Lassus ?
Alors, je pense que déjà, il faut un peu oublier ce qu'on a pu en entendre. Quand on dit l'architecture gothique, c'est l'arc brisé, la croisée d'ogives. Certes, c'est intéressant, mais c'est un peu limité et on en reste souvent à des considérations très, très techniques. Finalement, on pourrait très bien imaginer des bâtiments avec des arcs brisés, des croisées d'ogives, mais qui ne seraient pas du tout de l'architecture gothique. Peut-être que la meilleure façon de rentrer dans l'esprit de cette architecture, c'est de regarder l'ensemble et de laisser parler sa sensibilité, d'essayer de percevoir quelle atmosphère se dégage de ces édifices. Ce sont des lieux dans lesquels on se sert de la matière, mais pour la rendre immatérielle et ainsi pouvoir accéder à une dimension plus spirituelle, à pouvoir accéder à Dieu sans jamais renier cette matière. On a bien des pierres, on a bien du métal, on a bien du verre, mais tout cela est absolument sublimé dans un jeu permanent finalement entre la matière, l'immatériel, entre des pleins, les murs par exemple, et des vides qui sont extrêmement nombreux dans l'architecture gothique, entre des zones d'ombre et de lumière. Voilà, il y a comme un aller-retour permanent qui nous tourne vers le ciel.
C'est une médiation. Vous écrivez « la matière est une médiation nécessaire ».
Oui, alors là, on est complètement dans l'esprit des hommes du Moyen-Âge. C'est-à-dire que, selon eux, on a besoin de ces choses très concrètes pour pouvoir accéder à Dieu. C'est comme un chemin, d'une certaine façon. Et c'est aussi une réflexion très chrétienne. Hein, les chrétiens sont issus de la tradition juive d'abord. Donc, il y a ce rapport de Dieu à la matière dès la création du monde. Dieu lui-même travaille la terre et en fait quelque chose de vivant, quelque chose de beau. Il en fait l'homme. Et puis après, il y a cette foi dans l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu lui-même entre dans la matière dans la chair de l'homme pour l'amener à sa divinité. Et c'est exactement ce qui se fait dans les chantiers de cathédrales. On prend les pierres des carrières, on prend les bois des forêts, on prend le métal, et tout cela va permettre de nous mener à Dieu en étant transformé, magnifié par la couleur, par la lumière, par le travail des mains.
Ce que vous dites est important parce que tout le monde sait, ou à peu près tout le monde sait que les cathédrales sont comme des livres ouverts, mais il y a une idée d'incarnation. Et cette incarnation, au fond, c'est une représentation de... Les cathédrales sont une représentation de la Jérusalem céleste ?
Oui, c'est une image qui a été utilisée et qu'on retrouve clairement assumée. Par exemple, dans cette cérémonie très importante de la dédicace d'une église ou d'une cathédrale, plusieurs textes mentionnent cette référence au texte de l'Apocalypse. En fait, il s'agit d'une vision de Saint Jean qui décrit la cité sainte descendue du haut du ciel avec ses tours parées de pierres précieuses, pleines de couleurs. Et on croit vraiment voir une cathédrale. Et finalement, ces bâtisseurs ont voulu rendre concrète cette vision de l'Apocalypse pour leurs contemporains, finalement faire venir un peu du paradis sur la terre et pour permettre ainsi aux hommes de se rendre au paradis d'une certaine façon, de le voir, d'en percevoir l'ambiance et de rentrer dans une autre dimension quelque part.
Ce qui est très intéressant, c'est que vous étudiez chaque aspect de ce qui peut composer une cathédrale et auquel on ne pense pas forcément parce qu'on ne les voit pas quand on entre dans une cathédrale, mais par exemple la lumière, vous consacrez tout un article sur la place de la lumière dans la cathédrale.
Oui, en fait, nous en avons même deux, parce qu'il y a deux lumières. Il y a la lumière naturelle qui est extrêmement travaillée d'une façon fine, d'une façon subtile. On dit beaucoup que les cathédrales gothiques sont des monuments de lumière. En fait, c'est encore plus compliqué que ça, d'une certaine façon. C'est une lumière qui est travaillée, qui est modelée, qui est colorée. C'est pas nécessairement le plein soleil. On se rend bien compte qu'il y a parfois une impression un peu de pénombre, surtout quand les bâtiments ont encore conservé leurs vitraux d'origine. On va travailler cette entrée de la lumière en élargissant les baies au maximum, en étudiant soigneusement quelles couleurs vont être utilisées, plutôt des couleurs froides du côté nord où il y a moins de soleil et des couleurs chaudes par exemple du côté sud qui vont être plus illuminées avec toute une symbolique autour de cette lumière naturelle, de cette lumière du soleil. On va étudier les matériaux pour que les reflets soient beaux, soient brillants. Et cette lumière, c'est peut-être l'originalité aussi de l'architecture gothique, elle est répandue en abondance dans tout l'édifice. Elle n'est pas concentrée que sur l'autel, par exemple, comme c'est le cas dans l'architecture romane. Elle est dispensée partout, sur toute l'assemblée des fidèles, qui sont comme baignés dans cette ambiance de paradis. Et puis, nous avons aussi la lumière artificielle. Donc, à l'époque, ce sont des luminaires à base de bougies. Il y a des règlements religieux sur les combustibles utilisés. Là aussi, avec des symboliques, la cire d'abeille, l'huile, voilà. Et ces luminaires permettent de rythmer la vie de l'édifice. Selon les jours, on ne mettra pas autant de bougies, pas au même endroit. Donc l'intensité lumineuse va varier, va permettre de souligner tel ou tel point de l'édifice aussi. Et elle contribue d'une façon très très importante à la vie et à la perception du monument.
Article de Catherine Vincent, professeure d'histoire médiévale à l'Université Paris-Nanterre. Un article intitulé « À la lueur des flammes ». Et Catherine Vincent est l'auteur de Fiat Lux, lumière et luminaire dans la vie religieuse du XIIIe siècle au XVIe siècle. C'est un des aspects de ce dossier, c'est que vous avez pris vraiment les meilleurs spécialistes du sujet. Il y a un autre élément, d'ailleurs, la lumière est là pour éclairer quoi ? Elle est là pour éclairer les formes, mais aussi la couleur des murs, puisque l'on sait que les cathédrales étaient peintes.
Oui, alors effectivement, ça, ce sont les recherches des dernières décennies qui ont permis d'avoir une connaissance plus fine de cette polychromie des cathédrales. On a beaucoup parlé à Amiens, par exemple, avec des systèmes assez sophistiqués de projection sur la façade des statues qui étaient peintes. Et puis la restauration de la cathédrale de Chartres, par exemple, a permis de comprendre combien les murs eux-mêmes étaient recouverts d'enduit. Alors pas nécessairement avec des dessins, mais c'était juste une sorte de badigeon qui rehaussait la couleur naturelle des pierres. Souvent, on prenait une teinte assez proche de la couleur des pierres d'origine, mais pour la rehausser, l'idée n'était pas de cacher la pierre, mais de la magnifier, encore une fois, de transformer cette matière première qui nous était donnée pour la rendre rayonnante d'une certaine façon.
Vous nous donnez une sorte de guide des cathédrales de France, et puisque c'est l'été et qu'il s'agit de la dernière émission que nous enregistrons pour cette saison 2018-2019, vous conseillez un certain nombre de cathédrales.
Oui, il a fallu en choisir.
Ce qui...
12. Du coup, forcément, nous avons un peu laissé parler notre cœur. Nous avons choisi des cathédrales alors qui sont sur le territoire français aujourd'hui, même si elles ne l'étaient pas nécessairement à l'époque. Je pense à Strasbourg, qui se trouvait sur le territoire du Saint-Empire romain germanique. Mais voilà, nous avons mis des grandes stars, Reims, Chartres, Paris.
Et Amiens.
Amiens, exactement, Rouen, et des cathédrales peut-être un peu moins connues du grand public, mais qui valent vraiment le déplacement et puis qui comptent aussi dans cette grande histoire. Je pense par exemple à Sens, qui a vraiment été la première cathédrale gothique et qui vaut le déplacement. Je pense aussi à Laon, qui est vraiment une merveille, perchée sur sa colline, dans une ville qui garde encore quelque chose de très médiéval. Et puis il y a aussi des déclinaisons régionales un peu originales, par exemple à Clermont-Ferrand, avec une pierre, la pierre noire des volcans. Nous avons proposé un petit tour d'horizon pour nos lecteurs, parce que c'est vraiment in situ que nous pouvons comprendre cette architecture gothique, cette façon de concevoir l'espace. Il faut la ressentir, donc il faut rentrer dans ces cathédrales. Les articles ne suffiront pas.
Peut-être un dernier mot sur ce dossier. On imagine que dans 10 ans, il faut espérer donc... même si le président Macron donne 5 ans, on va bien voir ce qu'il va en advenir, mais dans 10 ans, on imagine des livres sur la restauration de la cathédrale Notre-Dame, des interviews de personnes qui auront participé et qui pourront être qualifiés de bâtisseurs de cathédrales, exactement comme au temps du Moyen-Âge. Ces bâtisseurs de cathédrales, vous êtes allé, vous, personnellement, à leur rencontre, puisque vous avez fait un reportage sur Strasbourg et l'œuvre des restaurateurs.
Oui, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, le terme de restaurateur est plus approprié dans la démarche, dans l'état d'esprit que celui de bâtisseur, parce qu'il ne s'agit pas de construire un peu ex nihilo un monument. Pour ces professionnels, il s'agit plutôt de s'adapter, d'être à l'écoute du monument qui leur est confié pour pouvoir, poser les meilleurs choix et apporter les meilleures solutions. J'ai été à Strasbourg parce que dans cette ville, il y a une structure tout à fait originale qui remonte au XIIIe siècle. Elle s'appelle la fondation de l'œuvre Notre-Dame. C'est en fait le successeur de ce qu'on appelait la fabrique, donc l'organisme qui gérait tous les financements, l'administration, le personnel d'un chantier de cathédrale. Cette structure est restée au cours des siècles, finalement autour de nombreuses cathédrales. La Révolution française les a emportées, sauf à Strasbourg, où elle existe toujours. Elle dispose d'un certain nombre de biens, des forêts par exemple, des immeubles qui lui apportent des rentes, et puis qui permettent de financer un certain nombre de travaux chaque année, à hauteur de 200 000 euros. Et les professionnels de la restauration qui y travaillent, eux, sont salariés par la ville. Ce sont surtout des tailleurs de pierre, mais pas exclusivement, et qui connaissent extrêmement bien leurs monuments. Et c'est vraiment un point fort pour un monument d'avoir cette connaissance fine de gens qui sont là depuis des années, qui ont sur place aussi toutes les archives liées au chantier précédent et qui peuvent être attentifs à la moindre défaillance. Finalement, une cathédrale, hein, c'est comme une maison. Quand on fait un entretien régulier, tout se passe bien, mais il faut avoir l'œil et il faut y passer souvent. Quand on se réveille tous les 20 ans pour se dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, eh bien, ça entraîne parfois des catastrophes et en tout cas des coûts beaucoup plus importants.
Voilà donc pour les cathédrales, un dossier subtil, c'est le mot qu'on utilisait tout à l'heure avant cette émission, intelligent parce qu'il donne le sens aux choses et à cette architecture magnifique. Il y a bien d'autres sujets dans la revue Codex. Le programme de sixième traite des origines des monothéismes et vous avez traité là des origines du judaïsme dans votre cahier pédagogique qui est un cahier que l'on retrouve à chaque fois et qui vise à aider les professeurs dans leur travail.
Oui, exactement. Nous sommes revenus sur ce sujet parce que c'est extrêmement important et puis étudié au collège. Donc c'était l'occasion de faire un point sur la façon dont le judaïsme s'est constitué autour de moments un peu phares, hein, comme l'exil à Babylone, la façon dont la figure de Yahvé s'est imposée aussi dans cette culture-là, un dieu parmi d'autres d'abord, et puis le seul vrai dieu adoré par les Juifs. Et donc c'est une occasion d'avoir un peu les idées au clair sur des sujets qu'on croit connaître, mais finalement pas toujours en profondeur.
Et alors vous avez mené une enquête, là on change de
siècle.
De siècle, hein, nous sommes au 20e siècle. Qui a tué le père Jerzy Popielewski? C'était un Polonais et il vivait à l'époque donc de la domination soviétique et du totalitarisme soviétique, et vous êtes parti faire votre enquête.
Oui, c'est une enquête de Bernard Lecomte, hein, qui a énormément couvert comme journaliste cette période-là.
C'est un grand spécialiste de
du monde religieux.
Du monde religieux et du rôle de Jean-Paul II dans la chute du mur. Il a écrit chez CLD Éditions un livre sur le sujet.
Oui, exactement. Et du coup, là, il se penche sur cette figure passionnante du père Jerzy Popielewski, qui est devenu, par la force des choses, l'aumônier du syndicat Solidarnosc à l'époque où il a été interdit, et qui est devenu assez vite une bête noire pour les autorités policières du régime. Et il montre très bien comment le bras de fer, finalement, entre ce prêtre assez simple et les services secrets a abouti à un drame, avec quelques alertes d'abord du harcèlement, des accidents un peu louches, des explosions et puis un jour l'enlèvement du prêtre dans sa voiture et puis quelques jours plus tard on l'a retrouvé noyé et visiblement battu aussi dans l'eau. Et en Pologne, ça a été un moment extrêmement important, ça a été très suivi, un moment de grande émotion. Et ce prêtre a insufflé beaucoup d'espoir aux Polonais dans des années difficiles. Et c'est intéressant de voir comme une figure de non-violence, finalement, a eu une forme de fécondité, même s'il l'a payé de sa vie.
Il y a bien d'autres sujets. Je renvoie nos auditeurs à la revue Codex. Je vois notamment qu'attendre de l'ouverture des archives de Pie XII, un texte de Philippe Chenot, qui est un des grands biographes de Eugenio Pacelli, devenu pape Pie XII. En 1939, Philippe Chenot a écrit donc une biographie sur le sujet et il fait le point, c'est une forme de tribune sur cette question des archives de Pie XII. Nous y reviendrons, nous, avec le livre de Frédéric Lemoyle, Pie XII et la France. Chers auditeurs, après avoir écouté cette émission, vous courez chez votre marchand de journaux, vous achetez Codex de 1000 ans d'aventure chrétienne, cathédrale gothique entre ciel et terre. Depuis que l'on fait cette émission en partenariat avec Codex, eh bien, je pense que c'est un des meilleurs numéros consacrés donc au-delà de Notre-Dame, au sens des cathédrales, et c'est ce sens qu'il fallait rappeler alors que Notre-Dame donc a vécu ce drame. Merci beaucoup, Priscille.
Merci, Christophe.
Et on se retrouve dans 3 mois.
Exactement.
Sur un tout autre sujet, les barbares, donc au 5e siècle. Chers auditeurs, merci encore pour votre fidélité. La saison 2018-2019 se termine avec cette émission Codex. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. N'hésitez pas à écouter Storia Voce sur les plages ou bien dans vos randonnées. Et nous nous donnons rendez-vous à la fin du mois d'août pour une nouvelle saison 2019-2020 de Storia Voce. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.